Nous avons donc commencé le semestre d'hiver, le point de vue de la sacramentalité à propos du mystère de l'Eucharistie. Découvrir ce qu'est la sacramentalité, c'était notre question, en comprenant la complémentarité du geste et de la parole. Et découvrir ce qu'est la sacramentalité dans le sacrement de l'Eucharistie. Puis nous avions commencé à voir comment, de l'Eucharistie, on pouvait préciser le mystère de l'ordre. De fait, c'est par l'Eucharistie que nous pouvons préciser le mystère de l'ordre. C'est la perspective la plus classique. Et c'est la perspective sur laquelle le Saint-Père revient constamment. Alors, je vous avais rappelé le texte de l'Écriture, parce qu'il faut tout le temps revenir à l'Écriture, et puis, lorsqu'il s'agit des sacrements, c'est la grande doctrine du Concile de Trente. Il faut lire à cette occasion le Concile de Trente. Il faut l'avoir lu dans ses études théologiques. Il faut quand même avoir lu le Concile de Trente. Et l'avoir lu pas seulement une lecture à toute vitesse, mais une lecture, la plume à la main, pour bien saisir ce qu'il nous est montré par rapport au mystère des sacrements. Il faut que nous ayons vis-à-vis des sacrements une vision théologique reposant sur l'enseignement de l'Église, la plus précise qui soit, étant donné que ces questions sont très remises en cause aujourd'hui. Nous l'avons vu pour le mystère de l'Eucharistie, on pourrait dire la même chose pour l'institution de l'Eucharistie, de l'ordre. De fait, hein, c'est la parole de notre Seigneur, faites ceci en mémoire de moi, sur laquelle l'Église a tout le temps pris, s'est appuyée sur cette parole de Jésus. Vous comprenez bien que cette parole de Jésus, prise uniquement en elle-même, ne pourrait pas donner une certitude absolue sur ce que c'est que le sacrement de l'ordre. C'est toute la tradition de l'Église. Et en fond, c'est ça qu'on doit essayer de comprendre, c'est que lorsqu'il s'agit des sacrements, et je vous l'ai dit à propos de la sacramentalité, lorsqu'il s'agit des sacrements, puisqu'il s'agit des gestes, les gestes sont gardés par la tradition. C'est la très grosse différence avec la parole. Et donc, je ne peux pas faire la théologie des sacrements sans la tradition. C'est impossible. Et ceci, ça se tient à la nature même du sacrement, qui se ramène au geste de Jésus. Le geste par lui-même, vous voyez, n'a pas la même intelligibilité que la parole. Le geste peut s'interpréter de multiples manières. Et c'est pour ça qu'on ne peut vraiment saisir les sacrements qu'à travers la tradition. Les sacrements sont les sacrements de l'Église. C'est l'affirmation qu'on dit habituellement et qui prend alors toute sa force et que saint Thomas reprend toujours. Et je crois qu'il est très important pour nous d'en saisir toute la signification. On ne dit jamais la parole de l'Église. Non, on dit toujours la parole de Dieu. Et on dit les sacrements de l'Église. Il faut qu'on soit très attentif à cette affirmation qui montre bien toute la différence qui existe entre la parole de Dieu et les gestes. Et voyez ce qu'on voit aujourd'hui, pratiquement chez les intégristes. Leur difficulté qu'ils ont d'accepter que l'Église puisse modifier la liturgie, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que la liturgie implique le mystère de la tradition. C'est les sacrements de l'Église. Ils font... Ça, c'est un manque de philosophie, si vous voulez. C'est un manque de philosophie et un manque d'intelligence. Ils font par rapport au sacrement ce qu'on ferait par rapport à la parole. Ça me frappe beaucoup, ça. Surtout quand on parle un peu avec eux. Et qu'on essaie de comprendre un peu. Il faut essayer de comprendre leur position. Il faut la comprendre pour pouvoir les aider. On doit les aider. On doit les aimer et les aider. c'est bien évident, tout en leur disant qu'on n'est pas du tout d'accord avec eux. Mais on doit les aimer et les aider. Alors, c'est intéressant de voir comment, de fait, cette confusion entre le point de vue de la parole et le point de vue du geste amène à cette position. Parce que c'est l'opposition diamétralement opposée à celle des protestants. Et pourtant, il y a la même confusion. Les protestants suppriment la tradition. Supprimant la tradition, on arrive à la lettre. Supprimant la tradition, vous supprimez les sacrements. Si vous ne confondez le point de vue de la lettre, le point de vue de la parole et le point de vue du geste, vous arriverez à une intransigeance du geste. Le geste est beaucoup plus souple que la parole. Vous savez bien, du reste, dans notre vie, il suffit de réfléchir à nos gestes et nos paroles. Le geste est beaucoup plus souple. Pourquoi ? Parce que le geste est lié à l'affectivité. Et c'est parce qu'il est lié à l'affectivité que le geste a une souplesse que la parole n'a pas. Et le geste, parce qu'il est lié à l'affectivité, a une indétermination que la parole n'a pas. Et c'est pour ça qu'il faut que l'Église soit gardienne des sacrements, d'une manière beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus complémentaire que pour la parole de Dieu. L'Église apporte à la parole toute l'interprétation des pères de l'Église, toute la théologie de l'Église, qui est un enrichissement de la parole. Vis-à-vis des gestes du Christ, l'Église apporte une complémentarité qui va beaucoup plus loin. Alors c'est ça qui serait très intéressant à étudier, au point de vue proprement théologique, et réflexion théologique, et de théologie fondamentale, puisque c'est toujours le point de vue de l'intelligence et de la parole, le point de vue de la foi et de l'intelligence, voir la différence de l'apport de la tradition, donc de l'apport de l'Église. La tradition, c'est l'Église qui vit. Quand il s'agit de la parole et quand il s'agit des gestes, ce n'est pas la même chose, parce que le geste est affectif, tandis que la parole relève de l'intelligence. La parole est fille de l'intelligence et le geste et le sacrement est fille de l'affectivité. Alors, il y a une complémentarité beaucoup plus grande, la complémentarité de l'épouse. L'Église en tant qu'épouse doit porter plus profondément les gestes et apporter à la signification des gestes du Christ un apport beaucoup plus profond, qui va beaucoup plus loin. C'est son rôle, parce que l'épouse est toujours du côté de la complémentarité, du côté de l'amour. Tandis que du côté de l'intelligence, elle est beaucoup plus dépendante. Quelqu'un à garder d'une façon plus précise. Donc, ça, c'est à... Je vous avais déjà dit ça, je le redis parce que je crois que c'est important quand il s'agit du passage de l'Eucharistie à l'ordre. Parce qu'on voit bien. C'est évident que faites ceci en mémoire de moi, voire à partir de là l'institution de l'ordre, pas si commun. Faites ceci en mémoire de moi. Mais ça s'adresse aux apôtres, évidemment, mais ça pourrait s'adresser aussi à tout le peuple de Dieu. Ça pourrait s'adresser à tous les croyants, puisque c'est le testament du Christ. Non, ça s'adresse aux apôtres, en tant qu'ils sont mandatés par le Christ pour, de fait, continuer le geste du testament du Christ. L'Église l'a compris de cette manière-là. Mais il y a beaucoup de querelles d'aujourd'hui, hein, pour le sacerdoce des femmes, par exemple. C'est un problème sur lequel on vous questionnera, c'est bien évident. Alors si vous répondez d'une façon qui n'est pas très aimable pour les femmes, ça ne portera aucun fruit. Il faut en saisir les raisons propres dans la tradition de l'Église. C'est dans la tradition de l'Église qu'on peut seul saisir les raisons propres. Ce n'est pas en soi. Absolument pas. Donc c'est la tradition de l'Église. Et l'Église a opté de cette manière, sous le soupe de l'Esprit Saint. Et le théologien doit essayer de comprendre pourquoi l'Église a opté de cette manière-là. Parce que ce n'est pas le théologien qui modifie la tradition. La tradition est plus que la théologie. La tradition est source de révélation, comme la parole de Dieu. Et donc la manière dont l'Église utilise les sacrements et vit des sacrements, c'est un lieu, comme on disait avant, un lieu théologique. Et on doit essayer de comprendre comment l'Église vit des sacrements. Et comment, alors, à des moments de crise, voyez, la parole est beaucoup plus gardée dans l'Écriture que les gestes. Et à chaque moment de crise, c'est les sacrements qui en prennent les plus grandes secousses, et particulièrement l'Eucharistie. C'est très cru, là aussi, parce que c'est plus vulnérable, c'est plus affectif. Il y a une part plus affective, il y a une part moins déterminée, il y a une part plus... Et c'est vrai, le traité des sacrements n'est pas très satisfaisant pour l'intelligence. Ce sont des signes pratiques. Des signes pratiques, les gestes, c'est pas très satisfaisant. C'est beaucoup plus beau de regarder le point de vue de la parole de Dieu et d'essayer de comprendre le mystère de la parole de Dieu. Les gestes, c'est jamais très... Mais pour le cœur, alors c'est tout à fait différent. Et c'est un des aspects sur lesquels on sait très bien que quand on a affaire à des communautés qui sont moins intellectuelles, le sacrement prend plus de place que dans des communautés intellectuelles. Plus les communautés se cérébralisent, plus le point de vue de la parole prend de l'importance, et plus le geste disparaît. Et donc plus le sacrement disparaît. Alors on comprend quand, dans l'Église, c'est les intellectuels qui commencent à prendre la direction, que les sacrements tendent à disparaître, et que tout est mis vis-à-vis de la parole. Alors, quand au contraire, l'Église est sous l'orientation de la vie monastique ou de la vie contemplative, alors à ce moment-là, c'est le côté affectif du cœur qui l'emporte, et les sacrements reprennent toute leur importance. C'est très curieux de voir ça. Ce serait très intéressant au point de vue des crises qui ont lieu dans l'Église, qui ont eu lieu dans l'Église, de comprendre ces aspects-là, parce que ça nous aide à comprendre cette complémentarité du mystère de la parole et du mystère du geste. Cette complémentarité du mystère de la parole et du mystère du geste, voyez, touche ces deux aspects de la connaissance, connaissance spéculative, connaissance pratique. La parole est premièrement spéculative, et le geste est premièrement pratique. Pas spéculatif du tout, le geste. C'est lié au corps, c'est lié à la sensibilité. Et donc il est premièrement pratique. Il implique une connaissance, et il implique de remonter à la contemplation. Le sacrement de l'Eucharistie est un sacrement d'amour qui est lié à la contemplation, mais il est d'ordre pratique. C'est la mendication. C'est le sacrifice. Il n'est pas spéculatif. Saint Thomas le dit bien quand il dit sola fide. Saint Thomas donne sa langue au chat quand il dit sola fide. Tout ce que je peux dire, c'est rien du tout. Il n'y a que la foi. Le sola fide est très important. Parce que ça fait comprendre le poids d'amour du sacrement. À la différence de la parole. Dans la parole, on peut expliciter des quantités de choses. Tandis que le geste, le sacrement, c'est beaucoup plus le point de vue affectif. Ce qui fait aussi comprendre, voyez, que lorsqu'il s'agit de moments où c'est plus dur à vivre, les aridités de la foi sont plus rudes du côté des sacrements que du côté de la parole. Du côté de la parole, il y aura toujours une certaine intelligibilité, donc une certaine nourriture pour notre intelligence. Tandis que du côté des sacrements, il n'y a rien du tout. C'est très vite dit au point de vue intelligent. Et c'est vrai, quand vous regardez le traité des sacrements tel que saint Thomas l'établit en théologie scientifique, ça ne vous nourrit pas tellement. Bien, je le dis, c'est un peu court. Au point de vue théologie scientifique, il ne peut pas faire mieux. Une fois qu'il a tout ramené au signe et à l'instrument, il ne peut pas faire mieux. Il nous a donné les deux analogies. Alors maintenant, débrouillez-vous, comprenez. Et au point de vue intelligible, ces deux analogies que nous devons essayer de comprendre, le signe et même un signe pratique, et le point de vue de l'instrument. Et voir comment les deux se ramènent. La ligne de l'intelligibilité du côté du signe, la ligne de l'efficacité du côté de l'instrument. Et voir comment ces deux aspects-là se rejoignent dans le sacrement, au niveau divin. Parce que ce sont des signes divins, et que c'est un instrument divin. Alors, il y a une union qui se fait par rapport à Jésus, qui est lui aussi sacrement du Père. Puisqu'il est signe, icône, et qu'il est instrument. Il est donc les sacrements prolongent le mystère de l'incarnation selon une modalité particulière. Ce n'est pas du tout un prolongement du sacrement de l'incarnation direct. Il y a quelque chose d'institutionnel entre deux. Et donc il y a quelque chose de nouveau. Les sacrements ne s'expliquent pas uniquement par l'incarnation. Les sacrements s'expliquent par une volonté expresse du législateur. Jésus qui veut que le mystère de l'incarnation continue de cette manière-là. Mais vous comprenez bien que le mystère de l'incarnation n'explique pas les sacrements. Il y a quelque chose de nouveau et de particulier dans les sacrements, irréductible, qui provient de la surabondance de l'amour. L'incarnation ne suffit pas, il suffit de prolongement de l'incarnation. Ah non, attention. Non, non. Il y a quelque chose de spécial. Il y a une volonté expresse du Christ et qui nous est donnée dans son testament à la scène. C'est pour ça que je crois qu'on doit commencer les sacrements toujours en regardant le mystère de la scène. C'est l'Eucharistie qui donne l'intelligibilité la plus grande à tous les autres sacrements. Et l'Eucharistie, c'est le silence de Dieu. Alors vous voyez, comme intelligibilité, c'est fameux. C'est le silence. On n'instruit pas par le silence. De temps en temps, on devrait se taire et dire, ça y est. Non, on n'instruit pas par le silence. C'est obligé de parler. On instruit. Pour éduquer, c'est obligé. Mais on peut éduquer par le silence. C'est l'éducation qui passe avant. Et c'est vrai que les sacrements sont de l'ordre plus de l'éducation que la parole. Dans notre monde d'aujourd'hui, on n'aime pas du tout d'être éduqué. Non, il faut bien le dire. On aime d'être instruit. Si ce qu'on communique est intelligent, et si ce qu'on communique quelque chose que notre intelligence est capable de saisir, on accepte ça. On accepte beaucoup plus difficilement d'être éduqué. Et alors, ce serait très intéressant de noter toute une série de points sur lesquels on voit pourquoi les sacrements, aujourd'hui, sont beaucoup plus difficiles à faire accepter qu'avant. C'est le signe du climat dans lequel on vit. L'éducation est rejetée, et le point de vue de l'instruction... Vous voyez, cette remarque que je vous avais déjà faite, au moins certains d'entre vous, ce qui m'avait beaucoup intéressé, il y a déjà 10 ans de ça. C'était des aumôniers des universités qui avaient réfléchi un tout petit peu pour comprendre ce qu'il y avait de particulier dans l'aumônerie universitaire aujourd'hui, de leur temps, donc il y a 10 ans. Alors, ils avaient réfléchi par rapport aux années précédentes. Ils avaient dit, les étudiants qui arrivent aujourd'hui à l'université sont beaucoup plus informés qu'avant. Au point de vue intelligence. Ils connaissent beaucoup plus de choses. Mais au côté affectif, du côté éducatif, ils sont beaucoup moins avancés qu'avant. Mais la fragilité affective est une espèce d'information beaucoup plus grande. Et ça, je crois que c'est vrai. C'est une constatation qui me semble très juste. Alors, par le fait même, ils sont beaucoup plus proches de tout un enseignement qu'on peut donner de la parole, ils sont beaucoup plus loin de l'éducation par les agrandements. Et ils en auraient pourtant beaucoup plus besoin. Parce qu'il faut affermir notre affectivité par les sacrements. Les sacrements sont une nourriture pour notre affectivité. Pour que notre affectivité se fortifie, pour que notre affectivité arrive à quelque chose de plus noué, de plus structuré. C'est les sacrements qui font ça. Tandis que la parole de Dieu nourrit notre intelligence, c'est bien évident. Alors, il faut réfléchir là-dessus, vous voyez, parce que c'est comme ça qu'on peut essayer de comprendre. Il faudra transmettre dans notre monde d'aujourd'hui la grandeur des sacrements dans une catéchèse. La grandeur des sacrements. Il faut essayer de transmettre dans notre monde d'aujourd'hui la grandeur des sacrements. À propos de catéchèse, je vous le dis parce que j'ai transmis ça au Père Marie-Alain qui vous le transmettra. Je crois que c'est important que nous puissions réfléchir sur ce que le Père Lagrange nous demande de faire. Et ceci, c'est aussi bien pour Bethléem que pour nous. Parce qu'il m'a fait allusion à Bethléem. Donc, c'est pour aussi bien pour Bethléem. Le Père Lagrange, vous savez bien, est parti à Dakar. Le Père Lagrange du diocèse de Bourg-en-Bresse. N'est-ce pas, le Père qui est un grand ami que nous connaissons bien, qui nous aime beaucoup. Le Père Lagrange a été demandé par le cardinal Tian Doum de réaliser une catéchèse pour le diocèse de Dakar. Le Père Lagrange vient de m'envoyer un petit dossier d'une première réflexion sur la manière de faire une catéchèse pour les classes de 6e et 5e. Et il me demande de la communiquer aux frères et de la communiquer aux sœurs pour que vous puissiez regarder cela et dire, si vous êtes d'accord, vos suggestions, vos... Autrement dit, il voudrait, vous voyez, que nous formions un petit laboratoire un peu par derrière, il ne faut pas trop en parler, hein, gardez ça pour vous, un petit laboratoire d'une réflexion catéchétique, la catéchèse, des sacrements, la catéchèse d'une façon générale pour les classes de 5e et 6e. Alors il envoie le plan et il demande d'y réfléchir là-dessus. Et il dit que si parmi vous, il y en a qui seraient heureux de rédiger dans le plan tel ou tel secteur, il en serait très heureux. C'est intéressant parce que c'est un laboratoire, si vous voulez. J'y pense parce que les sacrements font partie de cette catéchèse. Comment aujourd'hui enseigner les sacrements? Comment aujourd'hui donner le sens de l'Eucharistie, le sens du sacerdoce, le sens de la pénitence, le sens du baptême, et ainsi de suite. Mais c'est bien le sens, la signification de ces choses-là. Alors, le Père Marie-Alain vous mettra ça, il m'a dit qu'il le regarderait, et puis qu'ensuite il le mettra en circulation. Alors en circulation, je ne sais pas trop où il faudra le mettre, c'est peut-être... Ça, la prière verra où on peut le mettre aussi, dans un lieu où tout le monde peut le consulter. Et il serait peut-être bon de mettre plusieurs exemplaires pour que Bethléem puisse le communiquer aux autres maisons de Bethléem, qu'il puisse y avoir un certain travail en commun, que nous puissions réaliser cela. Vous savez que les amis de Bethléem à Paris, depuis déjà plusieurs années, avait beaucoup réfléchi à cette question-là. Alors on pourrait essayer de voir si ce que nous avons fait du côté de Paris peut aider cette réflexion-là. quand même un très gros problème, la communication de la foi aujourd'hui. Gros problème. Quand j'avais vu il y a un an Mgr Gilson au Mans, il m'avait dit, pour moi, le problème numéro un, c'est la communication de la foi. Comment communiquer la foi aux jeunes d'aujourd'hui? Avant, il y avait des familles chrétiennes qui permettaient la communication de la foi. Dans la mesure même où les familles deviennent moins chrétiennes, comment pouvons-nous communiquer la foi à des jeunes qui sont habitués à la télévision? Donc, où le langage n'est plus premièrement un langage maternel, mais un langage d'information. Étant donné que la communication de la foi n'est pas une information. C'est tout à fait différent. Alors comment faire comprendre le passage de l'information à un langage qui est un langage paternel, maternel, un langage amical, un langage affectif? Vous voyez, et c'est vrai que c'est tous ces problèmes-là qui sont sous-jacents. Alors vous voyez, j'ajoute, comment pouvoir faire comprendre le sens de l'éducation des sacrements? Parce que les sacrements sont les sacrements de l'Église qui éduquent. Ça ne nous apporte pas beaucoup de lumière au point de vue instruction. Mais ça nous éduque dans un monde qui refuse l'éducation. À partir de 12-13 ans, on refuse l'éducation. On refuse d'être éduqué. On accepte d'être éduqué quand on est tout petit. Pas faire autrement, et puis qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais dès qu'on a compris ce que c'était de l'éducation, on la refuse. Comment transmettre une éducation dans ce monde-là? Alors, vous voyez, tout notre effort éthique que nous faisons, au point de vue philosophique, devrait aider à ce problème des sacrements. Or, tout notre effort éthique au point de vue éducation, c'est de reprendre toute l'éthique à partir de l'expérience de l'amour d'amitié. Alors, il me semble qu'on devrait avoir à partir de là une lumière qui devrait nous aider à comprendre l'éducation que l'Église nous donne à travers les sacrements. L'éducation aujourd'hui, je crois, pour la plupart, n'est accepté que lorsqu'on montre que cette éducation permet un plus grand amour et permet une plus grande rencontre à l'égard d'une personne. C'est donc tout le problème de l'amour d'amitié. Je ne crois pas qu'on puisse reprendre l'éthique après Nietzsche autrement par l'amour d'amitié. Puisque pendant tout un certain temps, on avait pris l'éthique au niveau Kant. Donc, morale du devoir, il faut. Ça allait très loin, tu vois bien. Ça allait très loin. Le père de Ménas m'avait raconté des histoires les plus extraordinaires dans cet ordre de « il faut » dans la psychanalyse américaine. En montrant que, pour le gosse, la constipation était le souvenir de « il faut ». Et alors, comme en Amérique, il n'y a plus de constipation, par le fait même, il n'y a plus aucun sens de « il faut ». Et donc la morale devient laxiste. On pourrait très bien, pour ne pas dire autre chose, c'est pas ? Alors, on voit très bien comment... Il avait toute une conférence qui était faite là-dessus, hein, très sérieusement. Pontifiante, tu vois. Et c'était le cousin du père de Ménas qui était prêtre, qui avait assisté à cette conférence et qui me racontait cette conférence qu'il avait écoutée. On expliquait tout à partir de là. Pas étonnant que la morale n'existe plus, parce qu'il n'y a plus de constipation. Donc s'il n'y a plus de constipation, il ne peut plus y avoir de morale. La morale n'existe plus. Évidemment, c'est un peu court, n'est-ce pas, pour expliquer ce que c'est que la morale. Mais on voit très bien comment on peut arriver à préciser ces choses-là. Alors, la morale du devoir, ayant pris un coup très sérieux avec Nietzsche, c'est des boulets rouges, hein, que Nietzsche envoie sur la morale kantienne. Il faut donc reprendre la morale par quelque chose de plus radical que le devoir. Et ce qui est plus radical que devoir, c'est l'amour d'amitié, qui est source de toute obligation, de toute responsabilité. Alors, je crois qu'on devrait, voyez, dans une théologie des sacrements, essayer de comprendre que l'éducation de l'Église est une éducation d'amour, et d'amour à l'égard de Dieu, et d'amour à l'égard du prochain. C'est l'agapé. On avait fait, il faut bien se le dire, après le Concile de Trente, on avait fait des sacrements une super loi. L'obligation de se confesser, l'obligation de l'assistance à la messe, l'obligation, on sait très bien, on connaît tout ça. Tout ça dégringole d'un seul coup. Avec Nietzsche. Puisque la morale du devoir disparaît. Il faut donc reprendre d'une façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus vraie. Parce que c'est les conséquences du Concile de Trente, ça. C'est pas le Concile de Trente. Le Concile de Trente ne dit pas ça. Le Concile de Trente ne dit jamais que les sacrements, c'est une super loi. Mais on a compris le Concile de Trente selon les capacités du temps. Et alors c'était vu dans cette attitude d'une moralisation, d'une super moralisation. Je crois qu'aujourd'hui nous devons reprendre toute cette pédagogie divine, toute cette éducation divine des sacrements dans la lumière même de l'exigence de la charité divine, de l'agapé, amitié avec Dieu, amitié avec les hommes. Et comprendre alors comment les sacrements nous éduquent dans l'ordre de l'amour. Comment le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement d'amour par excellence. Comment le sacrement d'ordre va avoir un lien avec ce mystère d'amour qui nous est donné dans l'Eucharistie. Et chacun des sacrements, nous essaierons pour entrer dans cette nouvelle pédagogie. Vous voyez, pour essayer de donner le sens profond à cette pédagogie divine qui nous est donnée à travers les sacrements. Donc, il faut réfléchir là-dessus. Ça, ce serait la catéchèse des sacrements. Arriver à faire comprendre et saisir comment les sacrements sont pour nous cette communication profonde d'amour, signe et instrument. Ceci, c'est pour vous rappeler un peu le sens de cette étude que nous faisons. Nous faisons pour essayer de redécouvrir plus profondément cette théologie des gestes du Christ. Au-delà de la parole, le geste du Christ. La présence et le geste. Au-delà de la parole, la transmission que Jésus nous fait de quelque chose qui est plus que la parole, qui est de continuer sa mission de salut. Ce sont les sacrements qui sauvent. Ce n'est pas la parole en premier lieu. Dieu aurait pu faire que ce soit par la parole. Ce n'était pas du tout impossible. Jésus aurait pu être notre sauveur en enseignant à Nicodème. Il aurait pu faire que l'enseignement de Nicodème devienne le salut. Or, il a voulu que le mystère de la rédemption soit la croix. C'est bien un enseignement, mais c'est avant tout l'offrande de sa vie. C'est pas tout à fait la même chose. Or, les sacrements sont rattachés à la croix, au mystère de la rédemption. Et sont pour nous le mystère de la rédemption. Donc, c'est ça qu'il faut saisir, vous voyez. C'est que nous sommes sauvés par les sacrements. C'est pas l'enseignement qui nous sauve, en premier lieu. L'enseignement nous aide à comprendre le salut par les sacrements. Mais c'est pas l'enseignement. L'enseignement nous aide à être plus docile à certains aspects, mais ce n'est pas l'enseignement qui nous sauve, c'est les sacrements qui nous sauvent. Parce que les sacrements sont directement rattachés à la croix. C'est le mystère de la croix qui nous est donné. C'est la communication plénière d'amour. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'il faut essayer de saisir, hein, que nous essayons ensemble. Parce que je vous ai dit, c'est au fond assez difficile, mais c'est quand même très important. Alors, nous avons vu comment, à partir de l'Eucharistie, nous devons entrer dans le mystère du sacrement de l'ordre. L'Église affirme qu'il y a un sacrement, et l'Église a maintenu la communication de ce sacrement, ou l'institution de ce sacrement, à partir de la parole de Jésus, « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors, je vais vous lire toute une série de textes du Concile de Trente sur le sacrement de l'ordre. Je le lis pour que nous puissions ensemble, parce que c'est vraiment à partir du Concile de Trente que nous devons entrer dans les sacrements, hein, mais le comprendre, encore une fois, d'une façon particulière dans laquelle nous nous plaçons ici. Sacrifice et sacerdoce. Donc, numéro 892. Hein, ça fait partie du Concile de Trente. 23e session. La doctrine sur le sacrement de l'ordre. La 23e session, 15 juillet 1563. Alors, comme ça, vous êtes bien fixé. Alors, 892. Sacrifice et sacerdoce ont été si liés ensemble par la disposition de Dieu que l'un et l'autre ont existé sous les deux lois. Comme dans le Nouveau Testament, l'Église catholique a reçu de l'institution du Seigneur le saint sacrifice visible de l'Eucharistie, on doit aussi reconnaître qu'il y a en elle un sacerdoce nouveau, visible et extérieur, dans lequel le sacerdoce ancien a été changé. Ce sacerdoce a été institué par ce même Seigneur, notre Sauveur. Les apôtres et leurs successeurs, dans le sacerdoce, ont reçu le pouvoir de consacrer, d'offrir, de distribuer son corps et son sang, ainsi que celui de remettre ou de retenir les péchés. Les saintes lettres le montrent et la tradition de l'Église l'a toujours enseigné. C'est précis qu'il faut comprendre le lien entre sacerdoce et sacrifice. Intéressant parce que, de fait, si vous regardez selon l'ancienne alliance, vous voyez surgir le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il offre à Dieu le pain et le vin. Et Melchisédek apparaît comme bénissant Abraham. Alors il faut essayer de saisir ce lien entre sacerdoce, la capacité de bénir, qu'est-ce que c'est que la bénédiction, et le mystère du sacrifice. Bon, le mystère du sacrifice est explicité par le Concile, pas le mystère de la bénédiction. Et je crois pourtant que c'est quand même très important. Le sacerdoce est source de bénédiction. Le sacerdoce a la capacité de bénir. C'est bien, le diacre, il peut bénir les fruits secs. N'est-ce pas? Ça fait partie du diacre, ça. Tandis qu'au contraire, le sacerdoce peut bénir des fruits vivants. Moi, c'est différent. Ce qu'on disait avant pour bien discerner les deux. Alors, on voit ce que c'est que le point de vue du diacre. Le sacerdoce bénit. Melchisédek bénit. Alors, la bénédiction, c'est source de vie féconde. Toujours. Dieu bénit, vous voyez, la bénédiction de Dieu. C'est toujours lié à la fécondité. Et le sacerdoce, par le sacrifice, est lié à la fécondité. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Donc là, vous voyez le lien entre bénédiction et sacrifice. tous les deux sont liés à la fécondité. Tous les deux sont liés à la fécondité. Or, pourquoi tous les deux sont liés à la fécondité? Qu'est-ce que c'est que la fécondité? La fécondité, c'est la surabondance dans l'ordre de l'amour. Un amour surabondant est fécond. Un amour imparfait n'est pas fécond. C'est la surabondance dans l'ordre de l'amour. La surabondance dans l'ordre de l'amour va exiger le sacrifice, et la surabondance dans l'ordre de l'amour va se traduire par la bénédiction. Alors, il va y avoir cette chose curieuse, hein, c'est que c'est vrai, le sacerdoce du Christ implique sacrifice, implique bénédiction. Mais ce que le Concile de Trente ne... Il implique surtout le sacrifice. Hein. Et on comprend très bien, parce qu'il est en face de Luther qui supprime le sacrifice. Alors, on a continué uniquement d'affirmer ça. C'est très bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi insister sur l'aspect de la bénédiction. Et, de fait, c'est important. C'est même très important de bien montrer les deux. C'est conforme à toute la grande tradition, du reste. Hein. C'est pas original ce que je vous dis, c'est textuellement dans l'écriture. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de réfléchir le pourquoi de ce lien. Et comment se fait ce lien entre le point de vue du sacerdoce et de la bénédiction. Jésus bénit. C'est dit textuellement. Il bénit le pain, il bénit le vin. Il rend grâce et le bénit. Alors, la bénédiction est liée à la consécration. Et la bénédiction est donc liée au geste sacerdotal du Christ. Et plus profondément, Jésus va bénir en s'offrant. C'est peut-être par là que je comprends cette bénédiction particulière du sacerdoce du Christ, qui est une bénédiction dans laquelle Jésus lui-même est le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, pour porter beaucoup de fruits. Donc vous voyez que la finalité passe par le sacrifice. La bénédiction est liée à la fécondité. Et cette bénédiction va avoir une efficacité très particulière, qu'elle va impliquer l'offrande même de Jésus pour la fécondité. Vous avez donc là encore les deux aspects. La bénédiction, c'est le signe, et le sacrifice, c'est l'efficacité. Toutes les deux en vue de la fécondité. Je crois que ça, nous pouvons le saisir. Hein, ça nous aide à mieux comprendre. Alors, ça nous aide à mieux comprendre comment, je dirais, sacrifice et sacerdoce ont été liés. Bénédiction et sacerdoce ont été liés. Je l'ajouterai, je peux le faire en tant que théologien. J'ai tout à fait le droit de le faire. Pour bien montrer que le sacrifice, c'est la manière dont le sacerdoce va pouvoir bénir. C'est-à-dire conduire à la fécondité. J'espère que je l'explique suffisamment bien pour que vous voyez ce point de vue-là. Parce que je crois que c'est important pour nous de réfléchir sur ce que représente ce mystère du sacerdoce. Donc la bénédiction. La bénédiction, sa finalité, c'est la fécondité. Comment se fait cette fécondité? Le grain de blé qui tombe en terre, ça fait. Alors vous avez la bénédiction qui est le signe de la fécondité. Et l'instrument d'efficacité, ça fait par le sacrifice. Vous avez donc les deux qui sont liés au sacrifice. Le prêtre, c'est celui qui bénit. Et le prêtre, c'est celui qui offre le sacrifice. Et ce sacrifice a ce caractère tout à fait particulier, que de fait, lorsqu'il s'agit du sacerdoce du Christ, le sacrifice, c'est le prêtre lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un sacerdoce d'amour. Parce que c'est un sacerdoce de fécondité. Pourquoi y a-t-il la fécondité? La fécondité, c'est l'amour sur amour. On dit fécondité, on ne dit pas efficacité. pas que le sacerdoce du Christ, sacerdoce d'efficacité, sacerdoce de fécondité. Et alors c'est l'amour surabondant. L'amour surabondant va donc impliquer que le sacrifice, c'est le prêtre lui-même qui s'offre. Et le sacrifice, et le prêtre va aussi bénir. Mais il bénira en s'offrant lui-même. Pas simplement une bénédiction lointaine, mais il s'offre lui-même. Alors là, nous comprenons ce qui caractérise le sacerdoce du Christ, et nous comprenons comment Jésus, communiquant son sacerdoce au prêtre, à l'Église, donnant son sacerdoce à l'Église, va donner d'une manière sacramentelle. Comprenons bien. Sacramentelle, donc d'une manière surabondante, va communiquer le mystère même de son sacerdoce. Mystère de bénédiction, mystère de sacrifice, en vue de la fécondité. On continuera à essayer de comprendre un peu ce que représente ce mystère du sacerdoce au niveau sacrement.